Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc à nouveau avec le roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. Monsieur Jules entra. « Où est madame ? » demanda-t-il. « Madame va se coucher, elle a la migraine, » répondit la femme de chambre en prenant un air important. Monsieur Jules dit alors avec beaucoup de sang-froid en s'adressant à ses gens. « Vous pouvez desservir, je vais tenir compagnie à madame. » Et il rentra chez sa femme qu'il trouva pleurant mais étouffant ses sanglots dans son mouchoir. « Pourquoi pleurez-vous ? » lui dit Jules. « Vous n'avez à attendre de moi ni violence, ni reproche. Pourquoi me vengerais-je ? Si vous n'avez pas été fidèle à mon amour, c'est que vous n'en étiez pas digne. » « Pas digne ? » Ces mots répétés s'entendirent à travers les sanglots. Et l'accent avec lequel ils furent prononcés eût attendri tout autre homme que Jules. Pour vous tuer, il faudrait aimer plus que je n'aime peut-être, dit-il en continuant, mais je n'en aurai pas le courage. Je me tuerai plutôt, moi, vous laissant à votre bonheur et à qui ? Il n'acheva pas. Se tuer ! Cria Clémence en se jetant aux pieds de Jules et les tenant embrassés. Mais lui voulut se débarrasser de cette étreinte et secoua sa femme en la traînant jusqu'à son lit. « Laissez-moi » dit-il. « Non, non, Jules » criait-elle. « Si tu ne m'aimes plus, je mourrai. Veux-tu tout savoir ?»« Oui. » Il la prit, la serra violemment, s'assit sur le bord du lit, la retint entre ses jambes, puis, regardant d'un œil sec, cette belle tête devenue couleur de feu mais sillonnée de larmes. « Allons, dis !» répéta-t-il. Les sanglots de Clémence recommencèrent. « Non, c'est un secret de vie et de mort. Si je le disais, non, non, je ne puis pas. Grâce, Jules !»« Tu me trompes toujours. Ah ! « Tu ne me dis plus vous !» s'écria-t-elle. « Oui, Jules, tu peux croire que je te trompe, mais bientôt, tu sauras tout. » Mais ce Ferragus, ce forçat que tu vas voir, cet homme enrichi par des crimes, s'il n'est pas à toi, si tu ne lui appartiens pas. « Oh, Jules !»« Eh bien, est-ce ton bienfaiteur inconnu ? L'homme auquel nous devrions notre fortune, comme on l'a déjà dit ? Qui t'a dit cela ? Un homme que j'ai tué en duel. Oh Dieu, déjà un mort. Si ce n'est pas ton protecteur, s'il ne te donne pas de l'or et si c'est toi qui lui emporte. Voyons, est-ce ton frère ? Eh bien, dit-elle, si c'était vrai. Monsieur Desmarets se croisa les bras. Pourquoi me l'aurait-on caché ? Reprit-il. « Vous m'auriez donc trompé, ta mère et toi. D'ailleurs, va-t-on chez son frère tous les jours, ou presque tous les jours, hein ?» Sa femme était évanouie à ses pieds. « Morte, » dit-il. « Et si j'avais tort ?» Il sauta sur les cordons de sonnette, appela Joséphine et mit Clémence sur le lit. « J'en mourrai, » dit Madame Jules en revenant à elle. « Joséphine, cria Monsieur Desmarets, allez chercher Monsieur Desplein, puis vous irez après chez mon frère en le priant de venir le plus tôt possible. »« Pourquoi votre frère ? » dit Clémence. Jules était déjà sorti. Pour la première fois depuis 5 ans, Madame Jules se coucha seule dans son lit et fut contrainte de laisser entrer un médecin dans sa chambre sacrée. Ce fut deux peines bien vives. Desplein trouva Madame Jules fort mal, jamais émotion violente n'avait été plus intempestive. Il ne voulut rien présager et remit au lendemain à donner son avis. Après avoir ordonné quelques prescriptions qui ne furent point exécutées, les intérêts du cœur ayant fait oublier tous les soins physiques. Vers le matin, Clémence n'avait pas encore dormi. Elle était préoccupée par le sourd murmure d'une conversation qui durait depuis plusieurs heures entre les deux frères. Mais l'épaisseur des murs ne laissait arriver à son oreille aucun mot qui pût trahir l'objet de cette longue conférence. Monsieur Desmarets, le notaire, s'en alla bientôt. Le calme de la nuit, puis la singulière activité de sens que donne la passion, permirent alors à Clémence d'entendre le cri d'une plume et les mouvements involontaires d'un homme occupé à écrire. Ceux qui passent habituellement les nuits et qui ont observé les différents effets de l'acoustique par un profond silence savent que souvent un léger retentissement est facile à percevoir dans les mêmes lieux où des murmures égaux et continus n'avaient rien de distinctible. À 4 heures, le bruit cessa. Clémence se leva inquiète et tremblante, puis, pieds nus, sans peignoir, ne pensant ni à sa moiteur ni à l'état dans lequel elle se trouvait, la pauvre femme ouvrit heureusement la porte de communication sans la faire crier. Elle vit son mari, une plume à la main, tout endormi dans son fauteuil. Les bougies brûlaient dans les bobèches. Elle s'avança lentement et lut sur une enveloppe déjà cachetée. Ceci est mon testament. Elle s'agenouilla comme devant une tombe et baisa la main de son mari qui s'éveilla soudain. Jules, mon ami, l'on accorde quelques jours au criminel condamné à mort, dit-elle, en le regardant avec des yeux allumés par la fièvre et par l'amour. Ta femme innocente ne t'en demande que 2. Laisse-moi libre pendant 2 jours et attends. Après, je mourrai heureuse. Du moins, tu me regretteras. Clémence, je te les accorde. Et comme elle baisait les mains de son mari dans une touchante effusion de cœur, Jules, fasciné par ce cri de l'innocence, la prit et la baisa au front, tout honteux de subir encore le pouvoir de cette noble beauté. Le lendemain, après avoir pris quelques heures de repos, Jules entra dans la chambre de sa femme, obéissant machinalement à sa coutume de ne point sortir sans l'avoir vue. Clémence dormait. Un rayon de lumière, passant par les fentes les plus élevées des fenêtres, tombait sur le visage de cette femme accablée. Déjà des douleurs avaient altéré son front et la fraîche rougeur de ses lèvres. L'œil d'un amant ne pouvait pas se tromper à l'aspect de quelques marbrures foncées et de la pâleur maladive qui remplaçait et le ton égal des joues et la blancheur mate du teint. 2 fonds purs sur lesquels se jouaient si naïvement les sentiments de cette belle âme. « Elle souffre, » se dit Jules. « Pauvre Clémence, que Dieu nous protège. » Il la baisa bien doucement sur le front. Elle s'éveilla, vit son mari et comprit tout. Mais ne pouvant parler, elle lui prit la main et ses yeux se mouillèrent de larmes. « Je suis innocente, » dit-elle en achevant son rêve. « Tu ne sortiras pas ?» lui demanda Jules. « Non, je me sens trop faible pour quitter mon lit. »« Si tu changes d'avis, attends mon retour, » dit Jules. Et il descendit à la loge. « Foucrot, vous surveillerez exactement votre porte. Je veux connaître les gens qui entreront dans l'hôtel et ceux qui en sortiront. » Puis M. Jules se jeta dans un fiacre, se fit conduire à l'hôtel de Maulincourt et y demanda le baron. « Monsieur est malade, lui dit-on. » Jules insista pour entrer, donna son nom, et à défaut de M. de Maulincourt, il voulut voir le vidame ou la douairière. Il attendit pendant quelque temps dans le salon de la vieille baronne qui vint le trouver et lui dit que son petit-fils était beaucoup trop indisposé pour le recevoir. « Je connais, madame, répondit Jules, la nature de sa maladie par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et je vous prie de croire... » « Une lettre à vous, monsieur, de moi ?» s'écria la douairière en l'interrompant. « Mais je n'ai point écrit de lettre. Et que m'y fit-on dire, monsieur, dans cette lettre ?» Madame, reprit Jules, ayant l'intention de venir chez monsieur de Maulincourt aujourd'hui même et de vous rendre cette lettre, j'ai cru pouvoir la conserver, malgré l'injonction qui la termine. La voici. La douairière sonna pour avoir ses doubles besicles, et lorsqu'elle eut jeté les yeux sur le papier, elle manifesta la plus grande surprise. « Monsieur, dit-elle, mon écriture est si parfaitement imitée que s'il ne s'agissait pas d'une affaire récente, je m'y tromperais moi-même. Mon petit-fils est malade, il est vrai, mais sa raison n'a jamais été le moindrement du monde altérée. Nous sommes le jouet de quelques mauvais gens. Cependant, je ne devine pas dans quel but a été faite cette impertinence. Vous allez voir mon petit-fils, monsieur, et vous reconnaîtrez qu'il est parfaitement sain d'esprit. » Et elle sonna de nouveau pour faire demander au baron s'il pouvait recevoir M. Desmarets. Le valet revint avec une réponse affirmative. Jules monta chez Auguste de Maulincourt, qu'il trouva dans un fauteuil assis au coin de la cheminée et qui, trop faible pour se lever, le salua par un geste mélancolique. Le vidame de Pamiers lui tenait compagnie. « Monsieur le baron, dit Jules, j'ai quelque chose à vous dire d'assez particulier pour désirer que nous soyons seuls. » « Monsieur, répondit Auguste, monsieur le commandeur sait tout de cette affaire, et vous pouvez parler devant lui sans crainte. »« Monsieur le baron, répondit Jules, vous avez troublé, presque détruit mon bonheur, sans en avoir le droit. » Jusqu'au moment où nous verrons qui de nous peut demander ou doit accorder une réparation à l'autre, vous êtes tenu de m'aider à marcher dans la voie ténébreuse où vous m'avez jeté. Je viens donc pour apprendre de vous la demeure actuelle de l'être mystérieux qui exerce sur nos destinées une si fatale influence et qui semble avoir à ses ordres une puissance surnaturelle. Hier, au moment où je rentrais, après avoir entendu vos aveux, voici la lettre que j'ai reçue. » Et Jules lui présenta la fausse lettre.
Du cafard, des rengaines que chante un clochard sur le toit d'une vieille maison. Un moineau chante aussi sa chanson. Le ciel porte ses rêves d'azur sur les portes et sur les vieux murs. C'est un coin romantique et fané, mais c'est là que notre amour est né. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder le soir des amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir. Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle des cœurs fidèles. Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amour. Elle est belle quand le ciel est bleu. Elle est belle même quand il pleut. Mais le jour où je t'ai rencontrée, le soleil avait tout éclairé. Le soir même, c'est toi qui m'as dit je vous aime. C'est pourquoi depuis, nous n'avons qu'un logis pour nous deux dans la rue de nos premiers aveux. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder le soir des amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir, tout au fond d'un vieux faubourg. C'est la ruelle des cœurs fidèles, nous aimons toujours, toujours, la rue de notre amour.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Ferragus, chef des dévorants. Honoré de Balzac. Ce Ferragus, ce bourignard ou ce monsieur de Funcal est un démon, s'écria Maulincourt après l'avoir lu. Dans quel affreux dédale ai-je mis les pieds, où vais-je ? J'ai eu tort, monsieur, dit-il en regardant Jules. Mais la mort est certes la plus grande des expiations et ma mort approche. Vous pouvez donc me demander tout ce que vous désirez. Je suis à vos ordres. Monsieur, vous devez savoir où demeure l'inconnu. Je veux absolument, dût-il m'en coûter toute ma fortune actuelle, pénétrer ce mystère. Et en présence d'un ennemi si cruellement intelligent, les moments sont précieux. Justin va tout vous dire, répondit le baron. À ce moment, le commandeur s'agita sur sa chaise. Auguste sonna. « Justin n'est pas à l'hôtel !» s'écria le vidame avec une précipitation qui disait beaucoup de choses. « Eh bien, dit vivement Auguste, nos gens savent où il est. Un homme montera vite à cheval pour le chercher. Votre valet est dans Paris, n'est-ce pas ? On l'y trouvera !» Le commandeur parut visiblement troublé. « Justin ne viendra pas, mon ami, dit le vieillard, il est mort. » Je voulais te cacher cet accident, mais...
Mort ?
S'écria Monsieur de Maulincourt. Mort ? Et quand ? Et comment ? Hier, dans la nuit, il est allé souper avec d'anciens amis et s'est enivré sans doute. Ses amis, pris de vin comme lui, l'auront laissé se coucher dans la rue et une grosse voiture lui a passé sur le corps. Le forçat ne l'a pas manqué. Du premier coup, il l'a tué, dit Auguste. Il n'a pas été si heureux avec moi, il a été obligé de s'y prendre à 4 fois. Jules devint sombre et pensif. Je ne saurais donc rien, s'écria l'agent de change après une longue pause. Votre valet a peut-être été justement puni, n'a-t-il pas outrepassé vos ordres ? En calomniant Madame Desmarets dans l'esprit d'une Ida dont il a réveillé la jalousie, afin de la déchaîner sur nous. Ah, monsieur, dans ma colère, je lui avais abandonné Madame Jules.
Monsieur,
s'écria le mari, vivement irrité. Oh, monsieur, maintenant, répondit l'officier en réclamant le silence par un geste de la main, je suis prêt à tout. Vous ne ferez pas mieux que ce qui est fait, et vous ne me direz rien que ma conscience ne m'ait déjà dit. J'attends ce matin le plus célèbre professeur de toxicologie pour connaître mon sort. Si je suis destiné à de trop grandes souffrances, ma résolution est prise, je me brûlerai la cervelle.
« Mais vous parlez comme un enfant !» s'écria le commandeur, épouvanté par le sang-froid avec lequel le baron avait dit ces mots. « Votre grand-mère mourrait de chagrin !»«
Ah, monsieur, dit Jules, il n'existe aucun moyen de connaître en quel endroit de Paris demeure cet homme extraordinaire. « Je crois, monsieur, répondit le vieillard, avoir entendu dire à ce pauvre Justin que monsieur de Funcal logeait à l'ambassade de Portugal ou à celle du Brésil. Monsieur de Funcal est un gentilhomme qui appartient aux deux pays. Quant au forçat, il est mort et enterré. Votre persécuteur, quel qu'il soit, me paraît assez puissant pour que vous l'acceptiez sous sa nouvelle forme jusqu'au moment où vous aurez les moyens de le confondre et de l'écraser. Mais agissez avec prudence, mon cher monsieur. Si monsieur de Maulincourt avait suivi mes conseils, rien de tout ceci ne serait arrivé. » Jules se retira froidement, mais avec politesse. Il ne sut quel parti prendre pour arriver à Ferragus. Au moment où il rentra, son concierge lui dit que madame était sortie pour aller jeter une lettre dans la boîte de la petite poste qui se trouvait en face de la rue de Ménard. Jules se sentit humilié de reconnaître la prodigieuse intelligence avec laquelle son concierge épousait sa cause et l'adresse avec laquelle il devinait les moyens de le servir. L'empressement des inférieurs et leur habileté particulière à compromettre les maîtres qui se compromettent lui étaient connus. Le danger de les avoir pour complices en quoi que ce soit, il l'avait apprécié. Mais il ne put songer à sa dignité personnelle qu'au moment où il se trouva si subitement ravalé. Quel triomphe pour l'esclave incapable de s'élever jusqu'à son maître, de faire tomber le maître jusqu'à lui. Jules fut brusque et dur. Autre faute. Mais il souffrait tant. Sa vie, jusque-là si droite, si pure, devenait tortueuse. Et il lui fallait maintenant ruser, mentir. Et Clémence aussi mentait et rusait. Ce moment fut un moment de dégoût. Perdu dans un abîme de pensées amères, Jules resta machinalement immobile à la porte de son hôtel. Tantôt, s'abandonnant à des idées de désespoir, il voulait fuir, quitter la France, en emportant sur son amour toutes les illusions de l'incertitude. Tantôt, ne mettant pas en doute que la lettre jetée à la poste par Clémence ne s'adressât à Ferragus, il cherchait les moyens de surprendre la réponse qu'allait y faire cet être mystérieux. Tantôt il analysait les singuliers hasards de sa vie depuis son mariage et se demandait si la calomnie dont il avait tiré vengeance n'était pas une vérité. Enfin, revenant à la réponse de Ferragus, il se disait « Mais cet homme si profondément habile, si logique dans ses moindres actes, qui voit, qui pressent, qui calcule et devine même nos pensées, Ferragus, répondra-t-il ? Ne doit-il pas employer des moyens en harmonie avec sa puissance ? N'enverra-t-il pas sa réponse par quelque habile coquin ou peut-être dans un écrin apporté par un honnête homme qui ne saura pas ce qu'il apporte ou dans l'enveloppe des souliers qu'une ouvrière viendra livrer fort innocemment à ma femme ? Et si Clémence et lui s'entendent ? Et il se défiait de tout. Et il parcourait les champs immenses, la mer sans rivage des suppositions. Puis, après avoir flotté pendant quelque temps entre mille parties contraires, il se trouva plus fort chez lui que partout ailleurs et résolu de veiller dans sa maison comme un formicat léo au fond de sa volute sablonneuse. Foucrot, dit-il à son concierge, je suis sorti pour tous ceux qui viendront me voir. Si quelqu'un veut parler à madame ou lui apporte quelque chose, tu tinteras deux coups. Puis tu me montreras toutes les lettres qui seraient adressées ici n'importe à qui. Ainsi pensa-t-il en remontant dans son cabinet qui se trouvait à l'entresol, chevet au-devant des finesses de maître Ferragus. S'il envoie quelque émissaire assez rusé pour me demander afin de savoir si madame est seule, au moins je ne serai pas joué comme un sot. » Il se colla aux vitres qui dans son cabinet donnaient sur la rue, et par une dernière ruse que lui inspira la jalousie, il résolut de faire monter son premier commis dans sa voiture et de l'envoyer à la bourse en son lieu et place, avec une lettre pour un agent de change de ses amis, auquel il expliqua ses achats et ses ventes en le priant de le remplacer. Il remit ses transactions les plus délicates au lendemain, se moquant de la hausse et de la baisse et de toutes les dettes européennes. Beau privilège de l'amour. Il écrase tout, fait tout pâlir, l'autel, le trône et les grands livres. À 3h30, au moment où la bourse est dans tout le feu des reports, des fins courants, des primes, des fermes, etc., M. Jules vit entrer dans son cabinet Fouquereau, tout radieux. « Monsieur, il vient de venir une vieille femme, mais soignée, je dis, une fine mouche. » Elle a demandé, monsieur, a paru contrariée de ne point le trouver et m'a donné pour madame une lettre que voici. En proie à une angoisse fiévreuse, Jules décacheta la lettre. Mais il tomba bientôt dans son fauteuil tout épuisé. La lettre était un non-sens continuel. Et il fallait en avoir la clé pour la lire. Elle avait été écrite en chiffres. « Va-t'en, Fouquereau !» Le concierge sortit. « C'est un mystère plus profond que ne l'est la mer à l'endroit où la sonde s'y perd. Ah, c'est de l'amour. L'amour seul est aussi sagace, aussi ingénieux que l'est ce correspondant. Mon Dieu, je tuerai Clémence !» À ce moment, une idée heureuse jaillit dans sa cervelle, avec tant de force qu'il en fut presque physiquement éclairé. Au jour de sa laborieuse misère, avant son mariage, Jules s'était fait un ami véritable. L'excessive délicatesse avec laquelle il avait manié les susceptibilités d'un ami pauvre et modeste, le respect dont il l'avait entouré, l'ingénieuse adresse avec laquelle il l'avait noblement forcé de participer à son opulence sans le faire rougir, accrurent leur amitié. Jacquet resta fidèle à Desmarets malgré sa fortune. Jacquet, homme de probité, travailleur, austère en ses mœurs, avait fait lentement son chemin dans le ministère qui consomme à la fois le plus de friponnerie et le plus de probité. Employé au ministère des Affaires étrangères, il y avait en charge la partie la plus délicate des archives. Jacquet était dans le ministère une espèce de ver luisant qui jetait la lumière à ses heures sur les correspondances secrètes en déchiffrant et classant les dépêches. Placé plus haut que le simple bourgeois, il se trouvait aux affaires étrangères tout ce qu'il y avait de plus élevé dans le rang subalterne et vivait obscurément. Heureux d'une obscurité qui le mettait à l'abri des revers, satisfait de payer en obol sa dette à la patrie. Adjoint né de sa mairie, il obtenait en style de journal toute la considération qui lui était due. Grâce à Jules, sa position s'était améliorée par un bon mariage. Patriote inconnu, ministériel en fait, il se contentait de gémir au coin du feu sur la marche du gouvernement. Du reste, Jacquet était dans son ménage un roi des bonheurs, un homme à parapluie qui payait à sa femme une remise dont il ne profitait jamais. Enfin, pour achever la peinture de ce philosophe sans le savoir, il n'avait pas encore soupçonné, ne devait même jamais soupçonner tout le parti qu'il pouvait tirer de sa position en ayant pour ami intime un agent de change et connaissant tous les matins le secret de l'État. Cet homme sublime, à la manière du soldat ignoré qui meurt en sauvant Napoléon par un qui-vive, demeurait au ministère. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc la suite de ce roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.